La deuxième lettre aux Corinthiens est peut-être la quatrième parce que au moins deux lettres ne nous sont pas parvenues. Il faut lire 1 Corinthiens chapitre 7. Et sa lecture de cette lettre nous renseigne sur le ministère de Paul, un ministère fait de souffrances, d'opposition, de persécution et d'incompréhension. Mais elle nous renseigne également sur son comportement, ses réactions, somme toute, comment vivait-il le quotidien. C'est donc une lettre qui fait la part belle à l'autobiographie. Plusieurs expressions employées lors de la rédaction de la lettre nous décrivent l'état intérieur de Paul. Grande affliction, cœur angoissé, beaucoup de larmes. Paul déclare cependant, nous ne perdons jamais courage. Et il y a ici une négation renforcée que toutes les versions ne rendent pas. La version Kuhn dit par exemple, rien ne saurait abattre notre courage. La version Chouraki, nous ne perdons pas courage. Jusqu'au XVIIe siècle, le mot courage a été synonyme de cœur. Le courage est la vertu du cœur. Cœur et courage sont interchangeables. Les auteurs classiques ont utilisé ce mot et lui ont donné une place importante. On a tous appris à l'école le Cid de Corneille. Rodrigue, as-tu du cœur ? Autrement dit, as-tu du courage ? Pascal, dans une formule percutante, établit la scission entre le cœur et la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et Vauvenargues, qui est un mémoraliste de la première moitié du XVIIIe siècle, donne la primauté du cœur sur la raison. Les grandes pensées viennent du cœur. Mais nous pourrions ajouter aussi, sans nous tromper, que les mauvaises pensées viennent également du cœur. Lors de notre nouvelle naissance, le Seigneur a remplacé notre cœur de pierre par un cœur de chair. C'est cité dans Ézéchiel chapitre 36 et repris par l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 8. Notre cœur a une telle importance aux yeux de Dieu qu'il lui a donné des yeux et des oreilles. Quand Paul écrit la lettre aux Éphésiens, premier chapitre, il prie pour les Éphésiens et il demande à Dieu que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Les oreilles. Dans 1 Roi 3:9, je cite le texte hébreu. Dieu demande à Salomon, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Et Salomon répond, donne-moi un cœur qui écoute. Lorsque notre cœur ne se dirige pas droit sur Dieu, nous devons astigmate. C'est-à-dire que la perception de Dieu, des événements ou de notre prochain est déformée. Dans Deutéronome 8, verset 5, et je vais également citer le texte hébreu, Moïse parle au peuple et lui rappelle que l'intention du Seigneur est de nous éduquer. D'où le rappel des expériences passées, premièrement, pour nous apprendre à nous connaître. Deuxièmement, pour réfléchir aux expériences passées. Et troisièmement, vivre le présent et préparer l'avenir. Il fait appel au cœur de chacun. Et la traduction littérale de Deutéronome 8, verset 5, c'est « Tu seras en compagnie de ton cœur » ou « tu seras avec ton cœur ». Moïse fait appel ici au cœur de chacun, avec son pouvoir décisionnaire et la connaissance réfléchie de soi-même. L'Écriture affirme la primauté du cœur. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur » ou plus littéralement, « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même ». Et Proverbe 23, verset 26, « Donne-moi ton cœur ». Qui n'a jamais eu des hauts et des bas ? Jamais abattu, facile à dire, mais pas facile à vivre. Et nous avons, dans l'histoire du prophète Élie, une illustration de cela. Ceci, nous le lisons dans 1 Roi 18 et 19. Que se passe-t-il ? Élie vient de remporter une victoire magistrale sur Baal, Jézabel et Akab. Et cette victoire entraîne deux autres victoires. L'extermination des prophètes de Baal et l'arrivée de la pluie après 3 ans et demi de sécheresse. Élie est en haut. Mais surprise, devant la menace de Jézabel, c'est la peur, la fuite, c'est la chute. Élie est en bas. Nos qualités ont des défauts. Et nos médailles ont des revers. Là où le combat était plus facile, Élie chute à tel point que dans son désespoir, il demande à Dieu la mort. 1 Roi 19, verset 4. Il avait montré un courage indomptable au Carmel. Ce en quoi nos points forts ont leurs points faibles. Élie est au bout du rouleau. Et que fait-il ? Il s'isole. Or, l'être humain est avant tout relationnel. Nous ne sommes pas créés pour vivre seuls, mais vivre avec les autres. L'être humain est créé pour vivre en relation avec Dieu, son Créateur et son prochain, et s'isoler n'est pas ce qu'il fallait faire. Nous avons besoin des autres. Nos relations mutuelles nous amènent à nous rendre redevables les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes tous, sur un point ou sur un autre, fragiles et vulnérables. La souffrance fait partie de notre formation, de notre éducation. Du Fils de Dieu, il nous est dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur a connu toutes les souffrances. Ce que je souffre, il l'a déjà enduré. Il connaît. Tout ceci pour ne pas nous décourager. Et c'est ce que rappelle Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, où il cite toute la série de difficultés, d'épreuves qu'il a rencontrées. Décourager, c'est donc une réalité incontournable de la vie chrétienne. Moïse, Élie, Job, Jonas, Pierre, Paul ont rencontré ces expériences où tout semble aller à volo. Et les psaumes font écho à ces situations difficiles à traverser et à surmonter. Au psaume 73, verset 16, qui est un psaume d'Asaph, le psalmiste dit: quand j'y réfléchis pour comprendre, la difficulté fut grande à mes yeux. Parce que, en fait, le psalmiste voulait faire comme tout le monde. Pourquoi s'appliquer à une discipline alors que rien n'avance, rien ne fonctionne ? Je vais faire comme tout le monde. Et le psalmiste déclare: quand j'ai réfléchi, il a quand même réfléchi, pour comprendre, la difficulté fut grande à mes yeux. Le même écho, nous le trouvons dans le psaume 42, qui est un psaume de Corée. Et le psalmiste adresse à Dieu un pourquoi. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la difficulté ? Pourquoi l'épreuve ? Et succède alors un second pourquoi, qu'il s'adresse à lui-même. Pourquoi te replier mon âme ? Pourquoi gémir sur moi ? La réponse est: espère en Dieu. Lorsque nous sommes découragés, nous nourrissons des pensées négatives, premièrement à notre égard, deuxièmement à l'égard des autres, et troisièmement à l'égard de Dieu lui-même. Découragé peut-être, mais désespéré jamais. C'est le message que Paul nous adresse. Rétablir l'équilibre nécessite une correction de vision qui amènera un changement de perception, donc de perspective. Être encouragé. Premièrement, Dieu a sa part. Deuxièmement, notre prochain a la sienne. Troisièmement, pour une large part, moi-même. Nous sommes responsables de notre courage. C'est une des leçons du livre de Josué. Le Seigneur nous apprend à affronter les difficultés et non pas à les contourner. Le découragement n'est pas nécessairement imputable à un péché répréhensible. Le découragement fait partie de la vie chrétienne. Cela va à l'encontre d'une publicité mensongère qui voudrait que le chrétien spirituel ne peut pas connaître ou tomber dans le découragement. Je cite 2 Corinthiens 1, verset 8. Écoutez bien. En ce qui concerne la détresse que nous avons eue en Asie, nous ne voulons pas vous laisser ignorer que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Je conclus provisoirement parce qu'on reviendra plus tard, un peu plus tard sur le sujet. Luther disait « Celui qui ne prie pas avec confiance ne reçoit rien, ni ce qu'il demande, ni quelque chose de meilleur. » Prier, la prière est une parole que nous adressons à Dieu par laquelle nous disons, en même temps que notre attente, notre confiance en son pouvoir. Et notre prière devrait être « Seigneur, aide-moi à ne pas baisser les bras, mais à persévérer dans la prière, jusqu'à ce que je reçoive une réponse de ta part. » Dans 1 Corinthiens 1, verset 9, il nous est dit que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur, quand nous passons par des moments difficiles, donne-nous la grâce de ne pas se décourager, mais de croire que tu es avec nous dans l'épreuve. Aimer Dieu, c'est lui faire crédit. C'est accepter sans comprendre et continuer à se faire son avocat. Parce que le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera. Et nous passons par des chemins plus ou moins difficiles. Mais c'est la vie. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais faisons confiance au Seigneur afin de pour persévérer, ne point nous relâcher, mais d'obtenir la gloire. Amen.